Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. C'est un drôle d'animal qui semble avoir sa vie propre. Au début, tout va bien, il vous cueille, vous attrape et vous prend par surprise. À force, vous pensez le connaître, alors vous croyez l'apprivoiser. Un jour, vous êtes même sûr de pouvoir le provoquer, de l'emmener où vous voulez. Mais c'est là qu'il se carapate et oh mon Dieu, il vous échappe. Plus tard, il reviendra peut-être. Peut-être pas, oui, il a décidément sa vie propre, le désir et des ennemis partout autour de lui, le temps, l'usure, les injonctions, la vie. Que faire pour qu'il soit votre ami, pour tisser avec lui des liens, si ce n'est toujours joyeux, du moins un peu plus harmonieux quand le désir dans le couple se fait la malle? C'est la question qui nous préoccupe ce matin. Avec nous, comme tous les mardis, Marie-Laure Zonshine, chef des Actus pour Femmes Actuelles, magazine dont nous sommes partenaires. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Julia.
Les atermoiements du désir, est-ce que c'est une question qui revient souvent chez vos lectrices?
Ô combien, pas évident de l'évoquer. Hein. Souvent, les témoins restent anonymes, mais parlent d'une réalité bien concrète.
Ouais. Alors, de la chose lue ou entendue à la chose vue, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement en accueillant Éric Libio. Bonjour.
Bonjour, bien.
Alors, vous, dans le titre de cette émission, Quand le désir se fait la malle, ce qui vous interpelle, c'est autant désir que mal, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Mais à vous entendre, j'ai l'impression que je me suis trompé peut-être dessus. Enfin, on verra ça tout à l'heure.
Et la palme au coiffeur, mais on n'en dira pas plus. Chose vue, ce sera un tout petit peu avant la demi. D'ici là et après, vous êtes évidemment les bienvenus, écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter, ou bien mieux, appelez-nous au 01 45 24 7000. Oh oui, on les aime vos voix.
France Inter. Grand bien vous fasse. Julia Foyce.
Et on aime bien les leurs aussi. Alain Héril et Catherine Blanc, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux psychanalystes et sexothérapeutes. Vous nous guiderez ce matin dans les méandres du désir qui nous conduisent d'ailleurs jusqu'à Charlotte pour ouvrir le bal. Et bonjour Charlotte.
Bonjour.
Vous avez 32 ans et vous avez connu de longues périodes sans. Vous étiez pourtant amoureuse hein, de Grégoire, vous viviez avec lui, vous aviez de jolis projets tous les deux. Manquait juste peut-être ce fameux désir. Alors est-ce que c'était le cas depuis le début ou est-ce que finalement, comme tous les couples au démarrage, c'était tout feu tout flamme?
Non, c'était le cas depuis le début malheureusement et il n'y a jamais eu de désir. Alors on essaye de provoquer, de se dire qu'il faut pimenter un petit peu, faire plein de choses, mais en étant totalement réaliste, il n'y a jamais eu de désir. Alors après on était amis, peut-être que la relation d'amitié qui se transforme en relation d'amour n'emmène pas le désir avec, mais non, il n'y a jamais eu.
Et alors comment ça se passait? Comment est-ce que c'était plutôt lui ou plutôt vous qui manquiez de désir et comment?
Oui. Ah non, c'est moi. C'était moi. Lui, il était très 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 enthousiaste. Moi, pas du tout. Donc, je me forçais systématiquement en se demandant quelle est la norme. Alors, je demandais à mes amis qui combien de fois par semaine, etc. Et puis, en fait, ça j'essayais d'esquiver entre guillemets toute la semaine. Et puis le week-end, j'avais plus tellement le choix. Donc, ce tact qui devait être l'amour et guidé par le désir était finalement une contrainte. Et ça pendant 10 ans, donc c'est long.
Et vous en êtes arrivé à vous dire quoi? Que vous n'aimiez pas Grégoire ou que vous n'aimiez pas le sexe?
Les deux un petit peu mélangés, tout en me disant que peut-être cet amour était fraternel, peut-être que moi je n'aimais pas ça et que comme une certaine partie de la population, j'en avais pas besoin. Et puis en quittant Grégoire, je me suis rendu compte que non, j'avais envie et puis surtout... C'est fantastique de désirer quelqu'un.
Parce qu'aujourd'hui, vous êtes de nouveau en couple, très heureuse, très amoureuse de Benoît, avec qui, visiblement, les choses se passent tout à fait différemment, si j'ai bien compris.
Ben, tout est simple, et surtout, j'ai découvert, c'est quand même un peu triste, à 32 ans, plein de choses que je ne soupçonnais pas du tout. Je pense qu'il y avait peut-être une incompatibilité, c'est bête à dire comme ça, mais et que c'est pour ça que ça marchait pas. Et là, je pourrais avoir du désir tous les jours. Bon, parfois je suis fatiguée, donc je m'endors tranquillement à 23h, mais oui. Je pense qu'il y avait incompatibilité.
Merci infiniment, Charlotte, d'avoir accepté de partager avec nous un bout de votre histoire. J'imagine que ça n'est pas simple, mais en la matière, peut-être plus qu'ailleurs, l'échange et le dialogue sont de jolis alliés. Bonne journée à vous, Charlotte. Catherine Blanc, en quoi ce que raconte Charlotte pourrait être emblématique de ce que pourraient vivre un certain nombre de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez?
Bien, ça pose de toute façon la question d'abord d'un âge et d'une entrée dans la relation. Parfois, c'est la sexualité qui est le moteur. Parfois, c'est le besoin de s'inscrire dans une histoire de couple avec la sécurité du couple, avec la sécurité des liens, avec le besoin du cocooning, sortir d'une cellule familiale pour une cellule de couple tout aussi asexuée. Et là est l'urgence. Pour d'autres, c'est de faire des bébés. Donc, la sexualité va être là pour pouvoir faire des bébés. Mais dans le cas de Charlotte, c'était comme une sorte de glissement, de sortie vers...
Mais parce que pour vous, la sécurité ne va pas avec le désir ?
Le désir est insécurisant, parce que le désir rencontre potentiellement le non-désir, et donc une sorte de frustration, une sorte d'inquiétude personnelle. C'est-à-dire c'est très jouissif, c'est très jubilatoire, mais c'est aussi plein d'inquiétudes. C'est le risque que l'autre n'y réponde pas. Il faut beaucoup de maturité pour accueillir son désir, quel que soit le retour en face. Or, quand on est jeune, on a besoin de se sentir soutenu et encouragé là-dedans, d'autant plus d'ailleurs les femmes, parce qu'il y a des siècles d'histoire sur le désir féminin, avec une idée qu'une femme désirante n'est pas une femme de bonne vertu.
Une femme bien, oui. Voilà. Alors, vous évoquez ces deux moteurs pour se mettre en couple, c'est et le besoin de sécurité et le besoin de faire des enfants. Ça existe si peu, c'est si rare, ce qui, justement, à 20 ans, 30 ans, entre en relation parce qu'ils ont envie de faire l'amour, parce qu'ils désirent, parce que...
Si, bien sûr que si. Sauf que souvent, par exemple, ceux-là peuvent être très désirants, mais très peu à l'écoute de l'autre. L'autre étant l'objet de leur désir et de leur conquête personnelle ou de leur curiosité personnelle. Encore une fois, il y a à chaque temps de notre histoire, nous allons rajouter des choses et nous allons pouvoir faire avec plusieurs données, plusieurs interactions avec l'autre et avec soi-même. Et quand on démarre sa vie amoureuse, c'est une sorte de tri en fonction de ce qui est notre priorité, dont l'autre va être l'objet de notre sécurité, l'objet de notre fécondité ou l'objet de notre désir pour petit à petit le découvrir. Mais pour ça, il faut s'être découvert soi-même. Donc, il faut du temps et de la maturité. Rien de grave là-dedans, bien sûr. Sauf quand on s'engage et que, du coup, on se ferme des portes de façon trop ferme.
Alain Héril, que vous inspire l'histoire de Charlotte ? Qu'est-ce que vous voudriez retenir qui pourrait servir, encore une fois, à celles et ceux qui nous écoutent ? Est-ce que c'est le mot pimenté ? Est-ce que c'est le mot incompatibilité ? Est-ce que c'est le mot norme ? Il y avait plein de choses dans ce témoignage-là. Vous vous en retiendriez quoi ?
Moi, ce que je retiens... Il y a plein de choses, bien entendu. Ce que je retiens, c'est le mot norme. Ouais. C'est-à-dire, c'est la question de la normalité. Donc, la question de comparer son désir avec ce qu'on suppose du désir des autres. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mon cabinet. Je dirais même que c'est la question qui revient le plus souvent. C'est suis-je normal ? Ouais. J'ai tel désir, j'ai tel fantasme. Est-ce que je suis normal ? Donc, le besoin d'avoir un comparatif qui est là, mais qui est extérieur à soi. Alors que le désir, à mon sens, est quelque chose qui va questionner son intériorité, qui va questionner son rapport à soi-même, son rapport à son corps, son rapport à l'autre et tous ces éléments-là. Et je rejoins tout à fait ce que dit Catherine, c'est que il y a vraiment un apprentissage du désir. C'est pas parce
Sauf
que...
qu'on aimerait bien que ce soit donné d'emblée, comme ça on n'a pas trop y réfléchi, comme ça on n'a pas trop à le travailler, quoi.
Oui, mais le désir s'apprend. Le désir est quelque chose qui va bouger, qui va changer au fur et à mesure du rythme de la vie et de ce qu'on va effectivement découvrir et des expériences qu'on va accumuler. Donc on voudrait que ça soit donné d'emblée, mais c'est quelque chose qui se construit et qui s'apprend. Et il y a un autre élément qui est important, qui rejoint la normalité, c'est aussi le rapport aux couples parentaux. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en couple, il y a ces images parentales qui sont présentes et qui vont influencer la manière dont on est en couple avec l'autre. Ouais. Et ça, on apprend petit à petit à s'en débarrasser.
Détacher, ouais.
Et c'est là qu'on découvre son véritable désir, à mon sens.
Charlotte disait aussi, j'en ai conclu que moi, j'avais pas forcément autant besoin que d'autres de faire l'amour. Est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que on a un appétit plus ou moins développé pour la chose du sexe ? Est-ce qu'on part avec un capital désir ? Est-ce qu'on est tous différents en la matière et qu'on n'a pas tous les mêmes envies, pas tous
Moi, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes envies et qu'on n'a pas tous les mêmes envies en fonction de qui on rencontre et puis en fonction du moment de son histoire où ça se produit, bien entendu. On est quand même dans une société où on a des injonctions à l'orgasme, des injonctions au désir. Il faudrait qu'on soit toujours en rut et toujours prêt. Il me semble qu'il faut accepter que le désir soit quelque chose de fluctuant. Et justement, c'est avec cette fluctuation-là qu'on va jouer et qui crée aussi une incertitude. Et c'est là où le désir a sa profonde teneur. C'est justement dans le fait qu'il n'est jamais acquis et jamais donné de façon définitive. Donc le désir est fluctuant, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas désirant, mais on n'est pas désirant dans ce moment-là, avec cette personne-là, et à cet instant de son histoire.
Alors vous qui nous écoutez, vous le savez, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Vous n'avez plus de désir pour votre partenaire. Vous avez connu tous les deux des passages à vide, mais vous les avez dépassés. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter ou bien appelez-nous jusqu'à 11h en direct au 01 45 24 7000. À la technique de Grand Bien vous fasse ce matin, Kevin Pelot et Michel Bézikian. Stéphanie Texier est à la réalisation. Alexia Rivière et Clara Marlio coordonnent et programment cette émission accompagnée par Julia Macarès. Voyez, il n'y a que des gens bien, il n'y a que des gentils. N'hésitez pas, venez, intervenez. Ah, et puis voilà Gainsbourg dans les enceintes. Ça aussi, ça peut aider.
Écoute ma voix, écoute ma prière. Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
Et c'est Muriel Pérez qui nous met l'eau à la bouche ce matin, qui signe comme tous les matins la programmation musicale de Grand Bien vous fasse. Vous en retrouverez toutes les références sur franceinter.fr à la page de l'émission, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster, et ce sans aucune modération.
Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Grand Bien vous fasse.
Pas envie.
Viens.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
Sur France Inter.
La libido a ses raisons que la raison ne connaît pas, enfin si, quand même un peu. Hein. Disons qu'en tout cas, on va essayer de le comprendre ce matin, comprendre pourquoi parfois elle se fait la malle, comment le désir disparaît, comment surtout il peut réapparaître, allez savoir. Avec nous en studio, autour d'Eric Libio et de Marie-Laure Zonshine du magazine Femme Actuelle, nous avons le plaisir de recevoir les psychanalystes Catherine Blanc et Alain Héril. Je voulais d'abord juste qu'on revienne sur ce terme assez récent qu'on a vu apparaître, celui de récession sexuelle. On observe un recul net dans le désir et dans les pratiques sexuelles, notamment aux États-Unis et au Japon. Japon où, par exemple, 40% des moins de 35 ans sont encore vierges. Et on cite là deux pays où l'industrie du sexe est particulièrement puissante. Est-ce que ça a un lien ? Est-ce qu'à force de voir des sextoys à tous les étages, du porno à portée de clic, etc., est-ce que ça coupe les ailes du désir, Catherine Blanc ?
Le désir, c'est quelque chose que l'on construit, c'est extrêmement singulier. C'est une expression de soi, une expression de vie, une créativité, une curiosité. C'est aussi une infidélité de l'enfant aux parents pour tendre vers un avenir d'adulte et s'ériger au stade justement des parents. Et pour tout ça, il ne faut pas qu'il y ait de mélange des genres. Or, à partir du moment où tout est dicté, il n'y a plus de curiosité. À partir du moment où c'est une injonction, ça devient un devoir, donc la rébellion se fait, et la rébellion se fait dans les teintes du désir, inévitablement.
En France, le nombre de personnes qui consultent un sexologue a été multiplié par 4 en 15 ans. Motif numéro 1 de consultation, les troubles du désir. Alain Héril, est-ce que ça veut dire que ce sont des troubles qui sont particulièrement répandus, ou qu'aujourd'hui, on ose en parler ?
Je pense qu'aujourd'hui, on ose en parler, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une recrudescence de la baisse du désir chez les hommes. Donc, qui est quand même quelque chose de relativement nouveau, ou en tout cas, ils en parlaient moins auparavant. Donc, ça pose, bien entendu, la question du rapport homme-femme, de comment le désir s'exprime à l'intérieur du couple, ou dans la façon dont ça circule sur le terrain hétérosexuel. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec des homosexuels, qui avaient des problèmes de panne de désir également. Donc, la question de l'absence de désir interroge notre société. Et vous citiez les États-Unis, le Japon. Ouais. C'est intéressant de voir comment tout ce qui est de l'ordre de l'asexualisme est en train maintenant d'être revendiqué comme une forme de sexualité. Mmh. Et donc, ça nous interroge. Peut-être que ça interroge l'ultra discours sexualisé qu'il y a dans notre culture et dans notre société. Je parle bien de discours.
Et pas de pratique.
C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du sexe. Ouais. On en parle de plus en plus avec une façon qui semble très décomplexée, mais qui n'est finalement pas tant que ça.
Comme on dit que de la gueule, dans
l'intimité.
Je dis comme on dit que de la gueule.
Oui.
Nous avons Alexandra avec nous en ligne. Bonjour Alexandra. Alexandra, vous êtes là?
Oui, ça y est,
je vous entends. Magnifique. Alors vous, si j'ai bien compris, vous êtes en couple depuis 7 ans. Vous avez 25 ans et ni l'un ni l'autre n'avaient énormément de désir l'un pour l'autre en ce moment. Aujourd'hui, à l'instant T, vous en êtes là. Racontez-nous comment ça se passe et comment vous en êtes arrivé là.
Alors, avec mon chéri, on s'est rencontrés du coup en première année de fac. Donc bien sûr, désir sexuel assez facile, c'est simple, c'est complice, on se pose pas trop la question. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, il y avait des partiels, donc non, pas ce soir, parce que là, j'ai la tête à mes révisions. Ah non, mais là, j'ai un examen, là, j'ai un stage, là, j'ai un truc, j'ai pas trop la tête à ça. Et finalement, aujourd'hui, tous les deux, on travaille à plein temps et ça s'est pas résorbé, en fait. Et on s'est posé la question à plusieurs moments en se disant, mais est-ce que si on fait plus l'amour, on ne s'aime plus? Finalement, peut-être pas. Aujourd'hui, on est à un stade où on a accepté que cette baisse de libido fait partie de nos vies, parce qu'on a des vies assez stressantes, on n'est pas toujours posé, calme, on n'est pas toujours prêt à cette intimité-là. Et on s'est posé la question justement d'aller voir un sexologue à un moment donné, parce que ça joue quand même beaucoup sur la confiance en soi, la confiance dans le couple, c'est assez difficile à vivre. Et à chaque fois, les échos, c'était « Ah ben non, vous avez 25 ans, vous n'allez pas consulter. C'est facile à votre âge, vous n'allez pas y aller. » Donc finalement, c'est resté un peu entre nous et on a trouvé nos solutions à nous, qui est qu'on ne met plus la pression, on n'en parle pas. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave, c'est la vie. Mais ce n'est pas toujours assez évident de vivre au quotidien, en tout cas.
À cause du regard des autres ou entre vous?
Plus le regard des autres, et puis entre nous, on a réussi à un peu penser la plaie. On sait quand on est, on sait que la libido n'est pas toujours à 1000%, contrairement à ce que veut bien nous faire croire le marketing et les sites porno. Mais on a accepté que c'était partie de la vie. Après, c'est vis-à-vis du regard des autres, c'est plus difficile à porter.
Merci Alexandra d'être intervenue ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. Catherine Blanc, on entend Alexandra qui nous dit « Au début, on s'est dit, si on ne se désire plus et qu'on ne s'aime plus, aujourd'hui, on a décidé de plus se mettre la pression. » Quel est votre regard sur le parcours de ce couple-là?
Alors d'abord, se dire que le début facile est souvent, on ne parle pas tout à fait des mêmes désirs. Hein. C'est-à-dire que quand deux personnes se rencontrent, le désir est une façon de s'accrocher l'un à l'autre. Donc on désire que l'autre nous aime, et parce qu'on désire que l'autre nous aime, il y a toute une mise en scène du corps et une mise en scène de la relation, même un surjeu parfois, auquel on est plus ou moins dupe d'ailleurs, qui va faire toute la tout le ciment de la relation. Mais une fois la relation mise en place, sécurisée, eh bien le désir peut ne plus être nécessaire, ce désir-là, puisque évidemment il y a des formes de désir différentes. Il y a celui qui est né de ce besoin de s'attacher, de l'inquiétude que l'autre ne m'aime pas, et puis après il y a un désir qui est la construction, la proposition faite à l'autre, s'il y a matière et s'il y a créativité, bien évidemment.
Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le désir ça se travaille, ça ne se donne pas d'emblée, et ça évolue avec le temps aussi, évidemment. On a Marc au téléphone avec nous, bonjour Marc.
Bonjour.
Alors vous êtes en couple avec votre compagne depuis 4 ans et vous vivez tous les deux une perte de désir tout en étant très amoureux. Vous nous appelez ce matin parce que vous aviez envie de poser une question ou pour passer un message aux auditeurs et aux auditrices.
Bah, en fait, c'est un peu les deux. C'est savoir si c'était quelque chose de normal dans un couple, s'il y avait lieu de paniquer ou pas. On en a vraiment conscience. Et comme j'expliquais, on fait des choses, quoi. Chacun de son côté. Ma compagne consulte une sexologue. Moi, par exemple, je vais faire un stage de tantra pour hommes le week-end prochain. Donc, on n'est pas du tout inactif, mais on constate, et on en parle entre nous, que voilà, tous les deux, on a vraiment une perte de désir. C'est très étonnant parce qu'on a toujours eu une libido, et on a eu au départ une libido très très développée, on est même allé dans le libertinage, donc on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. C'est un constat qu'on fait.
Mais ça a disparu d'un coup ?
Comment ?
Ça a disparu d'un coup ?
Ouais, tout doucement. Depuis quelques mois, on a remarqué que ça diminuait. Quoi.
Et il s'est passé quelque chose ?
Pour l'un et pour l'autre. Et j'ai pas d'envie ailleurs.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques mois ?
Non. Non.
Rien. Catherine Blanc. Oui, quel âge avez-vous, Marc ?
Marié, voilà.
Vous êtes marié il y a un an. Mais sinon, il s'est rien passé. C'est pas rien. C'est pas rien quand même, Marc. Vous avez quel âge ? L'un et l'autre, vous avez quel âge ?
On a, moi j'ai 57 ans et ma compagne a 45 ans.
Est-ce que Catherine Blanc s'intéressait à la question de l'âge ? Parce que ça joue évidemment, mais ça joue comment, Catherine ?
Alors, de multiples façons. D'abord, il n'y a rien qui est anodin. Se marier est une chose, dont je parlais tout à l'heure, d'ancrage dans la relation, c'est une affirmation d'un ancrage. C'est aussi, ça peut être perçu avec tous les délices, mais aussi l'idée de l'enfermement potentiel. Enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Et puis, le désir, c'est aussi une histoire du rapport que l'on a avec la société, mais aussi du rapport que l'on a avec soi-même. De là, du temps qui est le sien. Tout à l'heure, on parlait des jeunes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 50 ans ou plus de 50 ans ? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 45 ans pour l'un pour l'autre ? C'est, encore une fois, les corps sont tout à fait en capacité. Mais on a chacun des lectures très singulières de ce que veut dire avoir un âge ou un autre, par exemple. Et puis, là, nous parlons, puisque nous sommes ici présents deux psychanalystes, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des raisons aussi biochimiques. Et quand je parle de biochimie, je ne parle pas nécessairement d'un âge qui serait par exemple de préménopause pour elle, par exemple, puisque ce n'est pas, même si l'andropause existe chez les hommes, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui concerne notre auditeur. Mais il y a de toute façon aussi des choses dans notre vie qui peuvent amener aussi à des déséquilibres de nos neurotransmetteurs, notre sérotonine, notre dopamine. Et que l'on le veuille ou non, sans ce truc joyeux, on peut mécaniquement fonctionner, mais le désir n'a pas de matière à ancrage. Alors ce ne sont pas les hormones du désir, mais ce sont les hormones du regard sur soi-même et de la capacité qui est la sienne. Donc, encore une fois, je le mets juste entre parenthèses pour qu'on ne réduise pas tout à de la psychologie. Il faut aussi avoir...
Mais le prendre en compte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je prends en compte et j'agis, parce que Marc nous dit, moi je suis active, je fais des choses pour que ça bouge et ma compagne aussi.
Oui, alors ben, voilà, c'est très bien, mais simplement, effectivement, il faudrait faire attention aussi qu'il y ait dans la capacité de l'individu une force physiologique qui lui permette aussi d'être sur ce chemin-là. Donc, effectivement, c'est quand même vérifié qu'il n'y a pas parfois des déprimes ou des dépressions larvées, pas nécessairement très visibles, que des événements comme un mariage. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire de ce couple, de se marier ? Pourquoi tant de temps ensemble et tout d'un coup un mariage ? Et ce que je trouve intéressant, c'est que la vie précédente était une vie très érotisée, jusqu'au libertinage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on s'y est fait ? Est-ce qu'on s'y est fait toujours du bien ? Est-ce que l'un a amené l'autre ? Est-ce que ça, on a éteint des choses ? Est-ce qu'on a eu le sentiment d'avoir fait le tour de la planète et du coup il ne reste plus rien à faire ? C'est intéressant parce que souvent on se laisse avoir, on se laisse duper par ce genre d'expérience pour mesurer une capacité de désir et parfois on ne se fait pas toujours du bien.
C'était une féministe américaine à qui on demandait pourquoi elle s'était jamais mariée, et elle répondait parce que j'ai du mal à faire l'amour en captivité. Voilà, Marc, je vous souhaite une très bonne journée. Méditez là-dessus. Alain Héril, petite question. Le témoignage de Marc me frappe en début d'émission. Il rejoint ce que vous disiez, c'est que les hommes commencent à parler. Jusqu'ici, on avait l'idée que les baisses de désir étaient principalement féminines. D'ailleurs, les chiffres de l'INSERM là-dessus sont assez clairs. On est sur un rapport de 1 à 2, 5% des hommes qui ressentent parfois ou souvent un désir insuffisant, et les femmes qui sont deux fois plus nombreuses. Alors, est-ce qu'elles sont effectivement plus sujettes à des baisses de désir ou simplement est-ce qu'elles en parlent plus facilement?
Je crois qu'il y a, il y a un petit peu des deux. C'est vrai qu'il y a une fonction cyclique chez la femme qui joue sans aucun doute sur la question du désir. Mais moi, j'ai un autre regard. Je pense que le désir, la libido, si on pense en énergie, par exemple, que l'énergie libidinale est beaucoup plus présente chez la femme que chez l'homme. Mmh. Jusqu'à preuve du contraire, le seul organe humain qui est dédié essentiellement au plaisir, c'est le clitoris, et nous, on n'en a pas. Donc il y a...
Pauvre de vous.
Oui, mais on a d'autres choses. Hein, c'est... mais je pense qu'il y a quelque chose à revoir aussi sur les rapports hommes-femmes, sur le lien au désir. Après, moi, ce que j'entends de ce que vient de dire Marc, c'est que lui, il va faire du tantra, elle voit un sexologue, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que la question du désir, c'est une question qu'il faut qu'ils abordent individuellement, chacun. Donc, ils trouvent chacun des réponses, ou en tout cas des pistes de réponses, pour faire redémarrer le désir, mais de manière singulière. Oui. Et juste une autre chose aussi par rapport au mariage, c'est que il y a une échelle de référence qui s'appelle l'échelle de Holmes par rapport au stress, et le mariage est en trois.
Ah oui.
Donc c'est-à-dire que le mariage fait partie des choses les plus stressantes pour un être humain. Même si évidemment,
voilà, je savais qu'il fallait pas faire ce truc là.
Voilà, même si évidemment a priori on choisit la personne avec qui on se marie, avec le déménagement, aussi, c'est-à-dire que donc ouais. il y a quelque chose qui crée un stress et qui crée peut-être inconsciemment quelque chose qui va enfermer les sujets dans un appauvrissement du désir, comme si le couple était acquis et il n'y a plus besoin de l'alimenter avec une fonction désirante.
Et disons aussi que le désir ne concerne pas que la sexualité, et parfois il est reporté sur d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, mais il est simplement reporté sur des fonctions professionnelles, créatives, etc. La question est pourquoi la zone sexuelle est oubliée.
Pourquoi il y a du désir, mais plus par là-bas, quoi. Lui, il l'éprouve, ça y est, ce désir ardent qui le pousse à prendre le micro, à dire oui, ce qu'il a sur le cœur et surtout dans la tête. Chose vue, c'est avec Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Et le moins qu'on puisse dire, Eric, c'est qu'au départ, on vous a un petit peu cueilli.
Désir
qui se fait la malle.
C'est vrai, je dois dire, cher Julia, que je dois vous avouer que lorsque j'ai lu le thème de l'émission, j'étais un petit peu étonné. Même si je sais que les auditrices et les auditeurs de France Inter sont capables de tout entendre, mais après tout, le désir, l'amour et le sexe sont de toute heure et de tout moment. Alors pourquoi pas en écoutant la radio le matin? Je reconnais pourtant m'être un peu inquiété d'entrer frontalement dans le vif du sujet et d'être obligé de décrire avec des mots ce qui se fait en gestes plus ou moins naturels, surtout pendant les vacances scolaires, mais bon, pourquoi pas, allons-y gaiement, alto politiquement correct et appelons un chat un sexe. Alors en fait, quand j'ai reçu le programme de l'émission par mail, j'ai lu non pas quand le désir se fait la malle, mais quand le désir se fait dans la malle.
Vous comprenez,
vous comprenez pourquoi j'étais un petit peu surpris par ce thème en forme de travaux pratiques. Mais bon, en bon élève, j'ai donc essayé de faire l'amour dans la malle.
Oui.
Alors autant vous dire que c'est pas facile, hein. D'autant moins facile que n'ayant pas de malle chez moi, j'ai essayé dans une valise. C'est vraiment pas commode. Et d'ailleurs, j'aurais sans doute préféré faire l'amour sur une commode, mais ce n'était pas le thème de l'émission.
On fera ça la semaine prochaine.
Voilà, on essaiera la semaine prochaine. Et fort de cette expérience ratée, je me suis dit que le thème n'était peut-être pas celui-là et qu'il y avait une faute de frappe dans l'intitulé. C'était peut-être quand l'amour se fait dans le malle. Mais un thème si explicite à 10h du matin, c'était sans doute beaucoup, même pour France Inter. J'imagine qu'un tel thème, Julia, a davantage sa place dans votre émission, pas son genre, le vendredi à 20h. Et hop, un petit peu de pub,
je suis
comme ça. Alors arrivé là, j'ai exploré toutes les positions sémantiques. Quand l'amour donne la dalle, quand l'amour se fait dans un râle, quand l'amour se fait à la matinale, quand les amours se font molles. Bref, je me perdais en conjecture quand j'ai relu mon mail et que je me suis rendu compte que c'était finalement quand le désir se fait la malle. En gros, quand il n'y a plus de désir, donc, quand il fout le camp, quand il se casse, quand il disparaît, quand il s'émousse, quand il se tire ailleurs, quand il part en sucette, quand il file à l'anglaise. Ah ben tiens, justement, en caressant mon téléphone portable, je suis tombé sur une étude anglaise disant que les trois professions les plus sexuellement transmissibles où le désir ne se fait pas la malle du tout sont médaille de bronze, coiffeur, sans doute pour l'érotisme de son bac à shampoing et son massage de crâne, médaille d'argent, architecte, probablement pour l'équerre et le compas, et médaille d'or, je vous le donne à mille, agriculteur. Le côté chou-fleur et rose, évidemment, mais aussi les graines, l'abricot, le poireau, l'aubergine, la courgette, l'amande, et tout ce qui se bêche et se bine. Les Anglais ont donc choisi la culture libido plutôt que la culture bio, alors que nous, Français, nous en sommes encore à l'amour et dans le pré, quand il serait plus souhaitable que l'amour se fasse dans le pré. Mais plutôt que de célébrer l'amour et dans le pré à la télé-réalité, qui est sans doute plus télé que réalité, je serais plutôt enclin à célébrer dans la vie l'amour et dans l'à-peu-près. Oui, d'accord, il faut des conseils, des analyses, des explications, des choses vues chez les uns et chez les autres, chez les patients très impatients, de trouver une solution. On l'a vu, on l'a entendu ce matin en début d'émission et on va encore l'entendre jusqu'à la fin. Eh bien, moi, j'aime cet à peu près, cet amour dans le presque près, parce qu'on n'est jamais loin finalement et qu'on doute et qu'il faut essayer et essayer encore et que chacun se débrouille au fil de sa vie. Et puisque les mots racontent aussi des histoires, j'imagine qu'un couple pourrait alors s'engager peut-être pour la vie, mais plus sûrement pour le meilleur et pour l'empirique. Y croire ou ne pas y croire, là est la question.
Merci Eric Libio. Si vous aussi, parfois, vous êtes dans l'à peu près, si empiriquement vous empirez, vous êtes les bienvenus. La vérité, c'est qu'on est tous comme ça. Vous savez comment nous joindre via la page Facebook de l'émission, l'appli France Inter ou bien au téléphone et en direct au 01 45 24 7000. Oui, appelez-nous. C'est plus chouette quand on l'a fait avec vous, cette émission. I like to see everything in neon. Drink lime green, stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing me. I like to light up the stage with a song. Do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that. Killing me slowly. Dream a little dream of me. Meet me in a song that's sweet. Turn the radio on, dance into a pop song. Fuck it, I love you. Fuck it, I love you. Fuck it, I love you.
Lana Del Rey, Fuck It, I Love You et Fuck It, laissez-moi juste quelques secondes pour vous rappeler que vous êtes sur France Inter et dans Grand Bien Vous Fasse, que ce matin on parle de désir, on parle de couple, on parle de baisse de désir dans le couple et qu'on le fait avec les psychanalystes et sexothérapeutes Alain Héril et Catherine Blanc. Alors profitez-en, vous avez les meilleurs pour vous répondre.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Julia Foyce.
Avec nous autour de la table, bien sûr, Eric Libio et Marie-Laure Zonshine, chef des actus pour Femmes Actuelles Magazine, dont nous sommes partenaires. Marie-Laure, que vous inspire nos discussions depuis le début de l'émission?
Finalement, de se dire, c'est normal. Ça peut arriver. Vous le disiez tout à l'heure, l'injonction notamment masculine est de plus en plus forte. On parlait des sites pornographiques. Je crois que c'est important de le rappeler, hein. Les chiffres sont quand même assez dingues. 20% des jeunes à partir de 14 ans en France, hein. On parlait tout à l'heure des États-Unis ou du Japon. Là, on reste en France. 20% donc des jeunes regardent des images à caractère pornographique au moins une fois par semaine. Leur entrée dans la sexualité est quand même assez troublante. Et en tant que parents, voire beaux-parents aussi, parce que je pense que c'est aussi le cas des auditeurs, ça les intéresse aussi de savoir comment gérer la cellule familiale sur ce plan-là aussi, lorsqu'il y a des ados à la maison, c'est quand même un questionnement majeur aujourd'hui, non ?
Oui, mais je pense qu'il faut même avoir un regard plus large que ça sur les images que les ados voient. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les images pornographiques, mais pas que. Il y a aussi des images à travers les jeux vidéo qui sont des images de violence. C'est-à-dire qu'ils sont dans un univers d'images qui est un univers où il y a de l'objet, il y a de la violence et où les relations sont des relations qui se font essentiellement dans le conflit. Et ça, c'est important pour comprendre ce qui se passe au niveau des adolescents. Il n'y a pas que l'image pornographique, c'est-à-dire que certains jeux sont des jeux qui véhiculent aussi une violence relationnelle, avec le nombre de morts, le nombre de sang qui gicle et tout ça. Donc tout cet univers-là les met dans une situation qui est une situation où finalement une relation humaine qui serait basée sur l'attente, la tendresse, l'amour, voilà, tous ces éléments-là est quelque chose qui n'est pas conçu à travers l'image vidéo. Donc il faut vraiment voir la notion d'image vidéo de façon beaucoup plus large que simplement l'image pornographique, parce que il voit des images pornographiques, mais il voit aussi d'autres images et qui sont tout aussi importantes et tout aussi impactantes dans la construction psycho-affective.
Allez, on va se faire quelques images beaucoup plus douces dans la tête avec Sarah Soquet qui est en ligne avec nous. Bonjour Sarah.
Oui, bonjour.
Côté face, vous êtes prof de lettres. Côté pile, passionné de littérature érotique. Et comme numériquement parlant, on va dire que vous touchez un petit peu votre bille, vous avez créé une application pour smartphone où vous partagez, vous transmettez votre passion. L'appli s'appelle Un texte, un Eros. Concrètement, ça fonctionne comment ?
Comment ça fonctionne ? Un texte, un Eros, c'est une application de littérature classique, amoureuse et érotique, et qui permet chaque jour de recevoir un texte sur son smartphone, de le garder, ce texte, de l'envoyer par mail à quelqu'un pour susciter, par exemple, le désir. Mm-hmm. Et les textes sont extrêmement variés. Il y en a un par jour sur un an.
Ouais.
Et ça va de Molière à Proust en passant par Apollinaire, Sade, Flaubert ou Musset.
L'application est disponible depuis 2016. Est-ce que vous pouvez savoir aujourd'hui à peu près qui télécharge ? Est-ce qu'il y a des profils d'utilisateurs ? Et puis aussi, quel texte fonctionne le mieux ?
Alors, pour répondre à la première question, nos utilisateurs sont vraiment assez spécifiques. Ce sont à la fois des amoureux des grands textes, mais ce sont aussi des couples en demande pour réveiller l'imaginaire amoureux, ouais. Des gens qui aiment la littérature érotique. C'est souvent une littérature que je trouve un peu une sous-littérature que j'avais envie de remettre en avant. Mmh. Et souvent, on nous écrit pour nous dire « on est ravis de voir que Proust ou Musset ou finalement Flaubert ou Maupassant sont eux aussi extrêmement... »
Pas de femmes, pardon, c'est un tropisme personnel, c'est un réflexe, mais il n'y a pas de femmes.
Si, il y a des femmes, il y a par exemple Georges Sand,
Georges
Sand qui fait des lettres à Musset extrêmement licencieuses. Si, tout à fait, il y a des femmes.
J'en suis ravie. Est-ce que vous auriez un extrait ou une citation à me dire comme ça, juste avant de se quitter, pour justement susciter ces jolies images dont je parlais ?
Eh bien, par exemple, quand vous lisez les lettres d'Apollinaire à Lou, quand Apollinaire écrit à Lou « Je me souviens de notre 69 épatant à grâce » ou alors « Je t'enculerai jusqu'à la racine de ma queue ». Ça, c'est des images très fortes qui sont donc textuelles, mais qui suscitent et qui réveillent l'imaginaire amoureux.
Eh ben ouais, vous êtes sur France Inter, il est 10h43, j'en suis personnellement ravie. Je précise, Sarah Soquet, que vous êtes aussi l'autrice de « La première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con ». Meilleur titre jamais trouvé dans l'histoire des titres, c'est un avis personnel. C'est publié chez Erol et c'est une sorte de manuel de coaching amoureux qui puise dans la littérature des conseils pour trouver l'âme sœur. Merci Sarah Soquet d'être passée, même brièvement, par Grand Bien vous fasse et d'avoir sans doute donné des idées à celles et ceux qui nous écoutent. Alain Eril, est-ce que vous pensez qu'une application comme celle-là, un texte, un Eros, peut être un allié de la libido dans le couple ?
Oui, bien sûr, parce que ça suscite l'imaginaire, ça crée des images, même il suffit de voir les deux phrases qui ont été prononcées là, tout de suite il se passe quelque chose. Et je dirais que le désir, c'est le fait qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas toujours quoi, mais il se passe quelque chose qui va nous mobiliser, nous interroger. Et bien entendu, moi je suis un fervent défenseur de la littérature érotique.
Sauf qu'il faut que ça nous soit naturel, c'est-à-dire que la presse féminine et masculine regorge de conseils pour
pimenter sa vie sexuelle. Je veux dire, du jour au lendemain, si ma cravache, si la cravache c'est pas mon truc, Catherine Blanc, je vais pas me retrouver au milieu du salon en cravache et en cuissarde parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Enfin, faut que ce soit quand même un tout petit peu naturel, que je m'y retrouve.
Et que ça vienne de moi. Parce que, encore une fois, n'ayant pas le sentiment que les gens n'ont pas d'imaginaire et qu'il faut leur en donner. On peut ne pas être homme ou femme de lettres, on peut ne pas être éditoriaux, on peut ne pas être réalisateur. Pour autant, on a tous un psychisme, on a tous les mêmes fantasmes, au sens des mêmes constructions de fantasmes, avec une créativité folle, et il faut pouvoir se révéler là-dedans. Or, encore une fois, s'il y a en moi toujours une part de masochisme et une part de sadisme, alors je mets des mots très vilains, qui vont nourrir notre sexualité, puisqu'ils vont me mettre dans une position parfois extrêmement très proactive, ou parfois à accueillir et jouer le subir de l'autre, ça doit venir quand c'est, je suis prêt ou prête à cela. Oui. Sinon, évidemment, je suis une caricature, je me regarde faire, je me sens ridicule.
Il faut prendre le temps de s'interroger soi.
Oui,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la difficulté.
C'est s'interroger ou pas. Dans la sexualité, au moment où on le fait, on n'a plus les neurones pour pouvoir s'interroger. Hein. On est vraiment dans une excitation.
Non, mais je veux dire, quand on disait tout à l'heure travailler son désir, c'est ça aussi, c'est regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, être à l'écoute de ses sensations.
C'est les accueillir, faire la paix avec ce que l'on accueille, et après cheminer pudiquement, en enlevant petit à petit, délicatement le voile, pour oser avancer là-dessus. Parce que toute la difficulté, c'est que non seulement il faut accueillir son désir, mais en plus, il faut pas lui en vouloir, il faut l'exprimer, et l'exprimer à quelqu'un dont on ne sait quel va être son accueil, avec le risque qu'il soit le reflet de notre propre culpabilité, et donc qu'il nous renvoie un ridicule à notre situation, ou au contraire, qu'il nous pousse bien au-delà de ce que nous aurions osé faire. Et c'est là toute la difficulté de la relation de couple.
Et puis bien sûr, il y a la petite pilule magique, hein, la petite pilule bleu, le Viagra qui débarque en pharmacie en 99 et qui déclenche immédiatement toutes sortes de fantasmes, nourrit l'imaginaire lui aussi, fournit aussi matière à scénario pour Claude Berry en tout cas, face à Fanny Ardant dans La Débandade.
Tu veux que je te dise ? Tu fais tout pour me faire débander.
Ah ben c'est moi que ça fait débander si tu veux le savoir. Hein ? Alors comme ça tu prends ta petite pilule et puis dans une heure crac crac on se prend comme des bêtes. Excuse-moi, je fais pas l'amour sur commande moi, à heure fixe avec l'aide de médicaments. J'aime le faire quand j'en ai envie, d'une façon naturelle, quand le désir est là.
Et ben justement, ça aide, mais sans désir, ça marche pas.
Oui, mais faut quand même le programmer, le décider une heure avant.
Ben ça, bien sûr.
Rien que ça, ça me coupe toutes mes envies.
Ouais, ben j'aurais mieux fait de l'avaler sans te le dire.
20 ans après l'arrivée du Viagra, Alain Héril, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qu'on en attendait, c'est la petite pilule miracle qui change la vie des couples ?
Déjà, c'est dit dans l'extrait, c'est-à-dire que le Viagra ne remplace pas le désir, ça c'est important de le souligner. C'est-à-dire que on peut prendre tout le Viagra du monde, s'il n'y a pas de désir, ça fonctionnera pas.
En revanche, il fonctionne quand il est dans la table de chevet,
oui,
parfois.
Exactement.
C'est-à-dire le simple fait de savoir qu'il est là, détend. Oui. On se dit on va pouvoir y arriver si jamais il y a un souci quoi.
C'est ça.
D'accord.
Oui. Donc il a une fonction effectivement dédramatisante. Il joue ce rôle-là. Après le Viagra, on est dans la médicalisation de la sexualité aussi. Et moi je m'interroge aussi beaucoup sur le rapport au médicament et quelle fonction symbolique le médicament peut avoir en dehors de son aspect direct, bien entendu physiologique, mais c'est sûr que le Viagra a changé beaucoup de choses. Ce qui est quand même très intéressant, c'est l'impossibilité du Viagra pour les femmes.
Hein, il y a le Librido.
Le Librido, voilà. C'est
promis sans arrêt qui, lui, mais en plus se prend sur 4 semaines, qui est plein d'effets secondaires, qui n'existe pas d'ailleurs en France, qui est commercialisé aux États-Unis uniquement, et qui agit, lui, directement sur le cerveau.
Oui, mais quand même, l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été commercialisé, c'est que ça allait faire des femmes des chiennes. Hein, c'est quand même... donc elles allaient être trop désirantes.
Ah oui.
Trop désirante, oui. Trop. Donc c'est aussi intéressant de voir ce lien-là, la sexualité féminine.
Nous avons une femme en ligne avec nous justement, Agathe, qui est en couple depuis presque 10 ans. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Et c'est la naissance de votre fille qui aurait entraîné une baisse de libido chez vous, c'est ça ?
C'est ça. Alors en fait, plus précisément, c'est l'allaitement. Parce qu'en fait, donc suite à la naissance d'un bébé, la libido revient doucement, disons que pendant quelques mois, c'est pas forcément la priorité. Mais en fait, jusqu'à un an après la naissance de ma fille, je retrouvais pas du tout ma libido que j'avais précédemment. Et ça devenait très compliqué à gérer avec mon conjoint parce que j'étais en dans une situation où soit je lui refusais et pour lui c'était une frustration d'avoir des refus réguliers et si j'acceptais de se contraindre à avoir une relation sexuelle quand on n'y a pas de désir, c'est très difficile. Et du coup, j'ai quand même été voir une psychologue en me disant, en mettant ça sur le compte du fait que j'étais fatiguée, que j'étais pas très en forme. Mmh. Et puis en fait, un an après la naissance de ma fille, quand j'ai arrêté de l'allaiter, vraiment du jour au lendemain, alors il faut savoir aussi que c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mes cycles menstruels. Et vraiment, ma libido est revenue du jour au lendemain. Alors j'ai été à la fois très soulagée parce que voilà, par rapport à mon conjoint et dans ma vie de tous les jours, ça m'enlevait un poids. Et en même temps, ça m'a un peu bouleversée de prendre la mesure en fait de l'impact des hormones et du cycle sur mon désir.
Merci Agathe d'être intervenue. Pardon, je vous coupe, mais l'heure court. Rapidement, Catherine Blanc, qu'est-ce que je vous ai vu faire? Et oui,
parce qu'il y a deux phénomènes. D'abord, la relation fusionnelle avec un enfant qui du coup empêche la relation avec un mari parfois, et parce qu'elle est trop précieuse. Et puis aussi la fameuse prolactine, qui est l'hormone que nous fabriquons quand nous allaitons, qui est une hormone anti-érotique, sans quoi Madame de Cro-Magnon aurait sevré son enfant.
vite,
faisant un autre
bébé. Non,
mais elle aurait fait, si elle n'avait pas eu cette, elle aurait refait un bébé et du coup, elle n'aurait plus eu de lait et le premier serait mort. Donc, nous avons une prolactine qui, justement, protège du risque d'une deuxième grossesse.
Et vous disiez tout à l'heure, nous avons aussi une physiologie des hormones qu'on prend en compte. Comment ça se passe quand on a, nous, toujours envie, mais que l'autre n'a plus envie? Dites-nous ce qu'il en est pour vous. Vos questions, vos témoignages nous intéressent. Rendez-vous sur notre page Facebook ou bien au téléphone au 01 45 24 7000.
Tu sens bon, mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde, tout s'éteint dans tes yeux bleus clin. De façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes.
Marie-Fleur sur France Inter avec ce titre Tout ou Rien. Alors attendez, hein, avant de jeter l'autre avec le du bain, parfois le désir, c'est un petit peu plus complexe que du tout ou rien.
Dans le couple, avec le temps, on baise moins.
Grand bien vous fasse.
Baiser, c'était à la pause de midi, derrière la bagnole, dans l'ascenseur, sous la douche.
Julia Foyce.
Alors que maintenant, faire l'amour, c'est le soir. C'est après une douche.
Sur France Inter.
Et tu dois attendre la fin des experts.
Et ce ne sont pas nos invités qui nous diront le contraire. Catherine Blanc et Alain Héril, psychologue et sexologue, psychanalyste, pardon, mon Dieu, qui nous accompagnent ce matin. Et puis, il y a aussi un Christian Clavier, une Charlotte de Turckheim, un film de François Le Terrier, ça s'appelait Les Babacools, et c'était en 1981.
Salut.
Salut. Ça va?
Ça va, et toi? Oh, je suis content d'être rentré. Qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce qui t'arrive?
Bah devine, ça fait 8 jours qu'on s'est pas vus, alors...
Ah, alors tu ferais partie des 22% des Français qui ont encore envie de l'enfant au bout de 4 ans.
Ah ouais, peut-être.
Tiens, c'est marrant, je t'avais coché dans la case des 37%, moi.
Mais quel 37%?
Bah ceux qui font l'amour une fois par mois, et encore.
Non, de quoi tu parles?
Je te tiens que ça fait 43 jours qu'on n'a rien fait.
Ah, tu tiens une comptabilité ou quoi, là?
Ah bah depuis un an, oui. Tu veux les chiffres exacts?
Non, écoute, je t'en prie. Tu sais très bien que depuis la dépression nerveuse de Durieux, je me tape le boulot de 2 personnes à la boîte. Enfin, effectivement, depuis un an, je suis claqué. Voilà, c'est tout. En plus, j'ai soif.
Et ce qu'on vient d'entendre rencontre un drôle d'écho dans le mail de Fanny qu'on vient de recevoir. Elle nous écrit « Ça fait 4 ans que je suis avec un homme que j'aime, nous sommes parents depuis un an. Notre relation ne cesse de connaître des bas, je suis toujours pleine de désir pour lui. Mais il ne cesse de se trouver des excuses, il ne fait des efforts que lorsque je suis sur le point de partir. À côté de ça, il ne cesse de regarder du porno. » Et elle nous explique « Que faire? Suis-je le problème ?» Est-ce que c'est la première question à se poser? C'est se demander si l'autre n'a plus envie de faire l'amour du tout ou s'il n'a plus envie de faire l'amour avec nous. Catherine Blanc.
Je crois que c'est à poser à la question à la personne justement qui ouais. est sans désir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ou qu'elle ressent le ou la concernant, parce que c'est assez facile, c'est douloureux hein, de ne pas être animé de désir. Tout à l'heure, on parlait des gens qui se revendiquent asexués et qui se portent très bien, mais moi, ce que j'entends dans mon cabinet, c'est que souvent ils sont en souffrance en se disant que il y a quelque chose de triste qui n'aboutit pas, qui n'émerge pas. Donc effectivement, ne pas toujours prendre, on a tendance à interpréter tout. Oui, en fonction de soi,
alors que l'autre a une vie qui
voilà,
lui est
donc
qui
il
lui
faut d'abord interroger l'autre.
Sauf que c'est extrêmement compliqué à engager comme conversation à l'aéril. Alors évidemment, il n'y a pas de recette miracle, mais est-ce qu'on peut donner quelques clés à celles et ceux qui nous écoutent? Parce qu'on dit faut dialoguer, mais c'est quand même un tout petit peu compliqué d'engager une conversation sur la perte de libido, sur l'absence de rapport sexuel.
Oui, c'est compliqué, mais en tout cas, l'avantage qu'on a, c'est que dans nos cabinets, ils viennent en parler quand même. C'est un espace où, justement, en face d'eux, ils auront un thérapeute qui ne sera pas forcément dans le jugement, donc qui sera dans l'écoute et dans l'accueil de cette parole-là. Toute la difficulté qu'il y a, c'est d'accepter une certaine vulnérabilité, parce qu'être sans désir, avoir perdu le désir, ça nous rend vulnérables. Et cette vulnérabilité-là, elle n'est pas politiquement correcte. Donc c'est ça aussi qui est en jeu. Évidemment, moi, j'ai pas de recettes toutes faites par rapport à ce terrain-là, parce qu'à chaque fois, ça s'inscrit dans une histoire de couple particulière et il faut vraiment voir à quel moment ça se passe. Mais je pars du principe qu'on ne perd jamais complètement le désir. La question, c'est où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il a été sublimé? Où est-ce qu'il est passé? Comment on peut réorganiser tout ça? C'est pas simple. Et ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que ça demande un petit peu de temps quand même. Ouais. Et c'est justement pour ça qu'on n'est pas dans les recettes toutes faites.
On
fait ça,
bouton,
le désir va revenir.
Ouais.
Il faut prendre le temps aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment où ça se passe.
Et l'autre n'est pas le moyen de se rassurer quant à soi en permanence. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir voir qu'un couple peut rencontrer une difficulté, mais l'autre n'est pas en devoir, au-delà des injonctions de la société.
Non,
l'injonction du couple, c'est le devoir d'être au rendez-vous que j'attends pour que je sois rassurée moi-même.
Et c'est pas une obligation, jamais d'ailleurs, à Marguerite qui nous dit « Après 30 ans de mariage, je n'ai plus de désir, pourtant j'aime mon mari. Je me force pour la paix du ménage », je dirais « Marguerite, non, pardon, on se force pas, ça c'est mon conseil personnel et j'y tiens ». On peut commencer par réécouter et réécouter encore cette émission pour y entendre Catherine Blanc et Alain Héril. Le podcast est sur l'appli France Inter que vous le trouvez. Évidemment, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous deux d'être venus. Je redonne les titres de vos derniers ouvrages. Catherine Blanc, La sexualité décomplexée, c'est chez Flammarion. Alain Héril, Je fantasme, donc je suis. Ce que nos fantasmes disent de nous, ça c'est chez Erol. Et moi je vous dis à demain.